L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Agnès Sablé-Rolle, qui est responsable des actions mobilité et mobilité internationale et chargée d'accompagnement social à la mission locale des jeunes. Et elle est accompagnée de deux de ces jeunes, justement, qui sont partis en service civique international et qui donc vont nous faire part de leur expérience. Célia Ruiz, qui est partie en Équateur, et Luna Clément au Pérou. Mais il y en avait aussi trois autres qui sont partis en Afrique, eux. Donc, ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est dommage, mais vous pourrez les entendre bientôt, puisqu'ils vont faire une restitution de ce qui était leur mission, lundi 12 juin, à l'espace Martin Luther King. Donc, je commence par Marie-Agnès Sablé-Rolle. Comment êtes-vous... aller justement avec ces jeunes pour leur préparer cette mission?
Alors, juste d'abord une précision, la mission locale, c'est la mission locale de Montpellier Méditerranée Métropole, voilà. Donc, on couvre le territoire de la métropole de Montpellier. La mission locale, c'est une association qui s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et pour travailler avec eux leur insertion sociale et professionnelle. Donc, depuis 2007, à la mission locale de Montpellier, nous avons un pôle mobilité internationale. Donc, ça fait déjà depuis un petit moment qu'on est habitué à faire partir des jeunes. Alors, dans un premier temps, en Europe, essentiellement, sur du service volontaire européen ou d'échange de jeunes. D'autres partent travailler, d'autres partent au pair, etc. Et puis, l'année dernière, en 2016, il y a eu un projet innovant qui a été porté par l'Union nationale des missions locales et France Volontaire pour envoyer des jeunes de mission locale dans du volontariat à l'international. Donc, en tout, en France, c'est 85 jeunes en 2016 qui sont partis dans 24 pays du Sud. Donc, nous, on a eu la chance à la mission locale de pouvoir s'associer à ce projet. Nous avons envoyé dans un premier temps deux jeunes sur cinq pays différents. Et puis, donc, la deuxième vague, comme on dit, de nouveau, cinq jeunes qui sont partis dans des pays du Sud. Et c'est un programme ambassadeur de l'engagement citoyen. Ça, c'est important de le préciser parce que ils sont en mission de service civique durant 7 mois. Donc, il y a eu un mois de préparation, mais peut-être ça, on en parlera parce que vous avez joué un grand rôle, le CDTM, dans cette préparation. 4 mois, ils sont en mission dans le pays. Et puis, pendant un mois, donc le retour, c'est cette phase-là où ils sont actuellement. Ils doivent témoigner de leur mission et puis le témoignage doit surtout être en direct de jeunes qui n'ont pas l'habitude de partir pour peut-être donner ou envie à d'autres jeunes de partir. Voilà, donc là maintenant je vais laisser la parole à Luna et Célia.
Oui, bien sûr, alors donc deux ambassadrices, mais ils étaient en réalité 5,
voilà.
Que vous pourrez bientôt écouter. Alors effectivement, le Centre Documentation Tiers Monde a fait une partie de cette préparation au départ, et qui a été assurée aussi par France Volontaire, ce qui a d'ailleurs permis des déplacements jusqu'à Paris pour ces jeunes.
C'est ça, exactement, vous êtes bien au courant.
Donc, ce que j'aimerais savoir, mais on va le voir bientôt, c'est si déjà vous étiez parti à l'étranger. Alors, Célia, est-ce que vous êtes déjà parti à l'étranger
avant ça? Avant ça, non. Pour une période aussi longue, non, jamais.
Et vous?
Moi non plus. Juste des petites vacances en Italie, tout ça en Europe, mais jamais aussi loin.
Voilà, alors c'était un vrai dépaysement, je pense. Alors, nous allons écouter peut-être un peu de musique, justement, sud-américaine, puisque vous êtes partis en Équateur et au Pérou.
Thank you.
Alors Célia, vous êtes partie en Équateur, donc vous avez dit 4 mois. C'est quand même déjà une durée assez longue. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'Équateur ?
Alors, je n'ai pas choisi ma destination. Justement, je voulais partir quelque part dans le monde. Et la destination ne me dérangeait pas. Je ne savais pas où aller. Et Marie-Agnès m'a appelée en novembre pour me dire bah, « Tu pars en Amérique latine, tu pars en Équateur. » Donc, ça a été une très belle surprise. Parce que je ne m'attendais à rien, en fait. Je ne m'attendais pas à partir dans un pays précis. Et j'ai eu une très, très belle surprise parce que je suis royalement tombée amoureuse de ce pays.
Alors, est-ce que vous parliez la langue ?
J'avais des bases en espagnol. Je pense que ça a aussi joué un petit peu sur la sélection parce que 4 mois, c'est à la fois peu et beaucoup. Donc, je pense que heureusement que j'avais ces quelques bases au début pour comprendre au moins.
Donc, vous êtes partie là-bas, vous n'étiez pas préparée spécialement à partir en Équateur. Comment avez-vous pu vous préparer ?
Mais déjà, on a eu tous les organismes qui nous ont entourés, donc la mission locale de Montpellier, l'association France Volontaire, qui nous ont permis de nous préparer avec des espèces de petites formations, notamment mais au CDTM de Montpellier, qui ont permis de répondre à toutes les questions qu'on pouvait avoir sur chaque continent ou pays dans lesquels on allait aller. Et ça a beaucoup servi parce que forcément, on a beaucoup de préjugés avec les médias, la télé, sur les pays. Et on a pu dire, ben voilà, où est-ce qu'on va aller, comment ça se passe, les codes au quotidien, la culture. Et ça a beaucoup servi parce que, enfin, pour moi personnellement, sur le pays, j'ai pu vivre des situations à laquelle on nous avait préparé en amont.
Voilà, alors vous étiez accueillis par qui dans le pays ?
Dans le pays, on était accueillis par un espace volontariat de l'association France Volontaire. Et donc dans cet espace volontariat, nous avions une tutrice qui s'appelle Evelyne Ladé et qui nous a accueillis pendant les 4 mois, qui nous a guidés dans les missions et dans les associations dans lesquelles on était. Et voilà.
Alors, dans quelles associations, justement, pour vous ?
Alors, moi, pendant 4 mois fixes, j'ai intervenu dans une école pour adolescents et adultes en situation de handicap, qui s'appelle Sinamune. Et ensuite, j'ai intervenu sur différentes missions dans le pays, notamment dans une ludothèque sur la côte équatorienne, qui... pendant une semaine, et en fait on a travaillé sur un projet en lien avec le séisme qu'il y a eu il y a 1 an exactement. Et c'était un projet qui permettait en fait aux enfants, à base de jeux, d'exprimer leurs émotions et face au traumatisme qu'ils avaient vécu. Donc on a travaillé pendant une semaine avec eux. Ensuite j'ai fait une mission dans un jardin botanique en Amazonie, où on est intervenu dans le jardin, à faire des plantations, avec des machettes très coupantes, avec plein d'animaux. J'ai intervenu également dans une association qui aide des communautés indigènes en Amazonie. Et c'est déjà bien.
Donc, c'est très varié.
C'est très varié. C'est ce qui, moi, m'a beaucoup plu personnellement parce que j'étais sur une mission fixe, donc au quotidien, ce qui a permis un suivi de A à Z pendant mes 4 mois. Mais à la fois, on a pu voyager dans le pays, découvrir différentes régions, différents modes de vie dans le pays. Et puis voir autre chose aussi que le quotidien, la routine, 5 jours par semaine dans la même association. Et ça, c'était... Le fait qu'il y ait des missions diverses comme ça, c'était vraiment ce qui m'a plu.
Ça vous fait connaître davantage le pays.
C'est ça aussi.
Alors, quel a été l'accueil ?
L'accueil de la population.
Bien sûr, oui.
Ils sont tous très, très aimables. Ça a été une très grande surprise. Je sais que là-bas, tout le monde vient t'aider si t'as un problème et c'est pas considéré comme une agression si par exemple dans la rue tu viens demander ton chemin. Et ça nous a vraiment, vraiment surpris au début parce qu'on s'attendait pas forcément à ça et ça fait vraiment du bien d'avoir autant d'amabilité.
Une chaleur humaine donc.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que vous en retirez, vous, personnellement ? Il y a eu des problèmes ou il n'y en a pas eu du tout ?
Mais forcément, en 4 mois, on a quelques petits problèmes au quotidien. Mais on oublie vite ces problèmes parce qu'on a tellement vécu une expérience extraordinaire qu'on les oublie. Et aujourd'hui, je pourrais dire que déjà, ça m'a encore plus ouvert à cette curiosité au voyage, clairement, à découvrir d'autres cultures. Et puis, j'ai aussi grandi, un peu plus grandi qu'au début. J'ai pris beaucoup plus confiance en moi, j'ai acquis beaucoup plus d'autonomie, à la fois professionnelle que personnelle. Si je pouvais résumer, ça m'a vraiment fait grandir.
Alors, vous avez 22 ans. Quelle était votre formation avant de partir ?
Avant de partir, j'ai eu un petit peu un chemin chaotique. J'ai commencé l'école d'infirmière que j'ai arrêtée au bout d'un an et demi parce que je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Mais grâce à la mission locale de Montpellier, j'ai pu faire des formations, des stages. Et j'avais cette envie de partir à l'étranger, de voir autre chose. Mais c'est vrai que de partir toute seule en sac à dos, je ne me sentais pas du tout. J'avais besoin d'être encadrée et surtout de voyager avec un but précis. Donc le service civique international, je trouve ça parfait parce qu'on travaille dans le milieu associatif et à la fois, ça nous permet de voyager et de découvrir une nouvelle culture. Donc du coup, je suis retournée voir ma mission locale pour leur dire, voilà, mon projet est de partir à l'étranger et si possible, faire un service civique. Et donc là, on a été redirigés vers notre tutrice Marie-Agnès Sablerol, on a eu des sélections, tout ça, et je suis partie.
Voilà. Alors maintenant, au retour, qu'est-ce que vous avez envie de faire ?
Mais maintenant, moi, mon projet, avant de partir également, en même temps, était de passer le concours d'éducateur spécialisé. Donc c'est toujours le cas parce que cette mission m'a permis aussi de valider ce projet parce que j'ai travaillé dans une école spécialisée pour, personnes en situation de handicap. Donc ça a quand même bien confirmé ce projet et donc en 2018, je passe le concours.
Très bien. Alors, plein de courage et
merci.
Un bel avenir devant vous qui s'ouvre.
Oui.
Et grâce à cette mission.
Exactement,
donc.
Oui.
Alors, vous vous sentez bien pour restituer justement tout ce que vous avez vécu.
Oui, oui, oui. Et puis, moi personnellement, ça me fait vraiment plaisir de partager ce que j'ai vécu. Donc, oui, je me sens tout à fait.
Donc, vous encouragez tous les jeunes qui sont comme vous, qui cherchent un peu leur chemin.
Oui.
À faire cette expérience.
Oui, parce qu'on a été en tout 48 en France à faire cette mission. Et en parlant tous, on s'est rendu compte que beaucoup ont appris, ont des compétences en plus aujourd'hui. Et beaucoup ont découvert des domaines professionnels, par exemple. Moi, j'ai confirmé mon projet, mais certains ont des projets grâce à cette mission. Donc, je pense que ça peut aider les jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, entre guillemets, à avoir un chemin, à se dire, mais pourquoi pas ce domaine-là.
Donc, tout est positif au retour.
Tout est positif au retour.
Voilà. Donc, merci beaucoup, Célia, de ce témoignage. On va écouter à nouveau un peu de musique.
Da companhia, aplausos e luzes pra ela, e a grande beldade é só simpatia. Quando ela aparece, o mundo estremece, balança todo o coreto. Rainha e valete é a dama coringa, seu trunfo é a sua ginga. Olhem, ela está chegando, já roubou a cena, mostrando toda a classe de grande ciclista. Trapézios, malabares, rebolados, ela faz, é a saltimbanco, é a grande artista. Olhem só como ela baila, que coisa mais fina.
Alors je me tourne maintenant vers Luna Clément qui elle est partie au Pérou.
Oui,
alors
bonjour.
Luna, aussi 4 mois bien sûr.
Oui.
Et quel a été justement l'accueil au Pérou ?
L'accueil au Pérou, au final le Pérou et l'Équateur c'est pas si loin que ça.
Mais moi aussi, j'ai trouvé que les gens étaient quand même très bienveillants et toujours dans l'écoute et envie d'aider. Bon, parfois, selon le public et la région, dans le Pérou même, il y a quelques stéréotypes que eux aussi ont sur les Blancs, comme par exemple, on est très riche et tout ça. Donc, selon les situations, c'est pas toujours facile de gérer ce cliché que nous avons au Pérou.
Donc, oui, c'est sûr que ça peut créer un petit problème.
Oui.
Car vous êtes venu, vous, avec votre jeunesse, votre allant, mais peu de moyens financiers, certainement.
Oui, mais en plus, eux, ils ne connaissent pas forcément le volontariat, donc ce n'était pas évident de leur expliquer pourquoi j'étais dans le pays. Et qu'en fait, je ne venais pas juste en touriste avec plein d'argent. Du coup, voilà.
Alors, avec quelle association? Quelles associations avez-vous été en contact, vous?
Alors, moi, j'ai travaillé dans une association culturelle, la Casa de los Titiriteros. C'est une association d'un couple de marionnettistes donc, qui organise des événements culturels les week-ends autour du théâtre, des marionnettes, du yoga. C'est vraiment des arts plastiques aussi, il y a beaucoup d'art. Et voilà, et j'ai aussi travaillé avec les enfants de la communauté du petit village où j'habitais. Et on a monté un film ensemble pour essayer d'avoir un sens un peu à ces échanges que j'avais avec le jeune public de Tornamesa, du coup, le petit village où j'habitais à 2 heures de Lima.
Et donc, c'était un public d'enfants avec lequel vous travaillez?
Du coup, j'avais deux missions. Oui, c'était des jeunes enfants de 3 à 14 ans. Et ensuite, quand on accueillait du public au sein de l'association même, c'était des familles, des parents avec leurs enfants qui venaient à la campagne pour participer aux événements que l'association organisait.
Alors, c'était vraiment culturel, artistique. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce genre de choses?
Mais alors, moi, j'ai aussi... ma grande passion, c'est les arts plastiques. J'ai fait 6 ans de théâtre. Et du coup, ça me tenait à cœur de... Enfin, j'étais surtout très intéressée pour rencontrer des professionnels dans ce milieu-là. Parce que c'est vrai qu'en France, tout ce qui touche un peu à l'art, je trouve que c'est pas trop mis en valeur comme chemin de vie, comme carrière professionnelle. Et j'avais envie de rencontrer des gens qui partageaient leur passion aussi dans leur travail. Du coup, ça m'a renforcé l'idée que quand on aime ce qu'on fait et qu'on est motivé, c'est possible, malgré que même en France, ce soit pas hyper développé ce domaine-là.
Voilà, alors les marionnettistes vous ont... fait participer à leur manipulation de marionnettes.
Oui, et c'est pour cela que, pour ma restitution, pour expliquer mon engagement que j'ai vécu au Pérou, on a monté un petit spectacle de marionnettes avec mon binôme. Voilà, du coup, ils m'ont... En plus, les marionnettes, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas tous les jours, et c'était vraiment une expérience très enrichissante et très originale aussi à faire.
Alors, vous avez parlé d'un film, vous avez parlé justement de cette manipulation de marionnettes. Est-ce que dans votre restitution, on pourra le voir?
Oui, bien sûr. Alors, nous, on a utilisé des chaussettes, parce qu'on n'avait pas trop de temps pour...
faire des marionnettes,
ouais,
oui.
Oui, oui, oui.
Ah, mais ça peut être très expressif, une chaussette. On verra ça, donc, le lundi 12 juin. Ça se passera à l'espace Martin Luther King de 18h30 à 21h, 27 boulevard Louis Blanc. Et bien sûr, tous nos auditeurs sont conviés à venir vous écouter, mais vous voir aussi. Alors, bien sûr, vous avez quand même dit qu'il y avait un problème, une difficulté, puisqu'il y avait des préjugés.
Quelques-uns, oui.
Vous-même en aviez quand vous êtes parti?
Mais j'avoue que oui, parce que c'est vrai que moi j'imaginais le Pérou vraiment chaotique, avec beaucoup de pollution, une grande pauvreté. Au final, j'ai vu ça, mais tout le Pérou n'est pas comme ça. C'est un pays qui est très grand, il y a différentes régions, et j'ai l'impression que c'est un pays où dedans il y a plein de petits pays, parce que selon si on est sur la côte ou dans la montagne ou dans la forêt amazonienne...
C'est très différent.
Oui, les populations ont des croyances différentes, ont un accent différent. C'est vraiment des modes de vie distincts. Mais du coup, c'est une grande diversité. J'ai beaucoup aimé
Vous connaissiez déjà un peu les problèmes des communautés indiennes en Amazonie ?
Rapidement, mais non, je ne m'étais pas plus penchée sur le sujet.
Et donc là, vous avez un peu pénétré dans ce monde ?
Alors moi, je suis, comme j'ai travaillé j'ai fait ma mission 4 mois dans la même association, mais quand je suis allée dans la forêt amazonienne, c'était juste pour visiter. Donc j'ai pas eu de lien avec des associations dans cette région-là. Mais par exemple à Cusco, c'est dans les Andes, dans la montagne, on a visité plusieurs associations qui travaillent avec un public justement fragile. Par exemple, à Cusco, ils parlent le quechua, c'est une langue qui est en train de disparaître parce qu'il y a beaucoup d'ancêtres, enfin de personnes âgées qui parlent cette langue, oui. Mais les jeunes ne suivent pas et du coup c'est une langue qui est en train de disparaître. Il y a beaucoup d'associations qui essaient de travailler sur ça pour qu'elle perdure et que ça, la tradition ne se perde pas.
Voilà, alors vous serez sûrement intéressé par le prochain Café Actualité qu'organise le Centre Documentation Terre Monde, parce que justement c'est un ingénieur agronome qui a vécu une 20aine d'années au Pérou avec des communautés indigènes et qui va témoigner de ce que ces communautés peuvent apporter justement pour le développement.
D'accord.
Donc ce sera, je pense, un bon contact pour vous.
À quel moment il est ce café ?
Ce café, il sera le lundi 19 juin.
D'accord, super.
Voilà. Donc on en reparlera bien sûr sur ces ondes. Pour vous, c'est ce lundi 12 juin, donc vous allez témoigner. J'ai oublié de vous demander, quel âge aviez-vous ?
J'ai 20 ans.
20 ans, plus jeune alors encore que Célia ?
Oui, j'ai fait mes 20 ans au Pérou.
Ah,
je suis partie à 19 ans, oui.
Alors, on vous a fêté l'anniversaire ?
Oui, autour d'un feu de camp avec des chants péruviens.
C'était très sympathique. Beau souvenir, certainement.
Oui, 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 je m'en souviendrai.
Donc, vous êtes revenu avec l'objectif de vous perfectionner, justement, dans le côté théâtral.
Mais en fait, moi, j'avais pas vraiment de projet professionnel. Et ce voyage, pour moi, c'était une ouverture d'esprit sur les différentes choses que je pourrais faire dans le futur. Et donc, je ne pense pas faire un projet professionnel autour du théâtre et des marionnettes. Mais en tout cas, ça m'a... Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, mais pourquoi pas faire un stage pour voir un peu le métier d'éducateur spécialisé, comme Célia. Parce que j'ai rencontré des publics un peu fragiles et ça m'a donné envie d'essayer de faire un accompagnement avec ces personnes-là. Donc pourquoi pas faire un stage dans ce domaine-là ou alors... continue à voyager, je ne sais pas.
Voilà, la réflexion vous aidera à choisir, je pense. Si c'était à refaire, vous le referiez.
Ah oui, absolument.
Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé de l'accompagnement que vous avez eu, justement ? Était-il suffisant ?
Oui, parce qu'on avait donc Marie-Agnès Sablérol, qui est notre tutrice en France. Moi, j'avais un binôme de tuteurs à Lima. Et en plus, j'avais la dame de l'association où j'étais qui m'accompagnait. Donc, j'avais 3 intermédiaires qui avaient des points de vue différents. Mais au final, malgré quelques difficultés, ils ont toujours été là pour m'accompagner.
Ils ont su faire le tuilage entre eux.
Ah oui, tout à fait. On faisait des Skype. En tout début, on a fait un Skype avant qu'ils partent pour un peu leur décrire les personnalités des candidats pour qu'ils essayent d'avoir des missions qui correspondaient un petit peu à leurs souhaits et à ce qu'ils avaient envie de faire. Voilà. Et quand je reviens un peu sur Célia qui disait on n'a pas choisi le pays, c'était le jeu, c'est-à-dire c'était le fait de dire on s'engage, mais on ne choisit pas dans lequel pays on va. C'était l'engagement, on l'a voulu sur la mission dans sa globalité, mais pas forcément avec un lien avec un pays. Bon, il se trouve que Célia et Luna sont parties en Amérique latine parce qu'elles avaient quelques bases en espagnol.
Ah oui, et c'était le cas de Luna aussi.
Voilà,
oui.
C'était impératif pour eux. Mais les autres jeunes qui sont partis, donc les 3 autres qui sont malheureusement pas là ce matin, sont partis en Afrique, donc eux, voilà, sur des missions.
Des pays de langue française.
Dans des pays de langue française, voilà, Bénin, Togo.
Et Sénégal,
voilà. Ce qu'il faut juste noter là, c'était l'idée aussi que des jeunes de missions locales qui sont pas super pairs qualifiés, ça va, ils sont en devenir hein, de qualification, peuvent faire partir aussi dans des missions de volontariat international. Quand c'est bien préparé, quand c'est cadré, avec un tuteur sur place, ils font des choses fantastiques. Et il n'y a pas toujours besoin d'avoir un bac plus 4 et un bac plus 5. Voilà,
c'était tout à fait
c'est
à
l'idée
lire, oui.
de ce vraiment de ce programme-là pour ouvrir le volontariat international aux jeunes moins qualifiés. Et on espère que ces programmes-là vont se développer pour que d'autres jeunes puissent partir. Voilà.
Oui, ça c'est très précieux et je pense à dire parce que les difficultés administratives viennent souvent que les décisions qui ont été prises avant sont remises en cause. Voilà. Donc c'est pour ça que ce témoignage est important.
Bien sûr, pour eux, d'abord pour d'autres jeunes. Moi, j'ai un petit slogan en mission locale où je dis toujours « partir, c'est possible ». Donc là, ce témoignage le prouve bien pour toutes les deux qui n'étaient jamais parties sur un pays aussi lointain. Et vous avez vu avec quel bonheur elle témoigne. Et
tout
avec
à fait. Alors, je regrette évidemment que les garçons, puisqu'il y avait voilà. aussi des garçons qui sont partis en Afrique, ne soient pas là, parce que eux, peut-être, ils n'étaient pas aussi prêts à témoigner. Qu'est-ce qui est arrivé?
Alors, je pense qu'il y a toujours cette appréhension, effectivement, de témoigner, surtout de témoigner en radio. Et puis aussi, des fois aussi, le retour, la réalité les rattrape. Il y en a un qui prépare des concours, donc il essaye dans ses témoignages de se rendre disponible, mais il ne peut pas tout le temps. Et Jonathan, qui est parti au Togo, est parti, lui, avec un CAP de mécanicien poids lourd. Et il a fait de très très belles missions. C'est dommage qu'il ne soit pas là pour en parler, mais je pense que le 12 juin il sera là. Et il a œuvré dans des associations pour qui la mécanique permettait de sortir les enfants de la rue. Et puis il a aussi participé, comme il était assez sportif, à faire des entraînements physiques aussi pour des enfants de rue à Lomé. Donc il a fait aussi une très très belle mission.
Oui.
Ils ont tous fait de belles missions. Voilà. Et vraiment, le réseau des espaces de volontariat de France Volontaire a bien joué le jeu. Au départ, ce n'était pas évident hein, de recevoir. Ils avaient plus l'habitude de recevoir des VSI. Encore une fois, des jeunes diplômés. Donc, quand on dit jeunes des missions locales, parfois, voilà, on a aussi des clichés en France. Voilà, on a fait ce tutorat. Donc, ça les a confortés avec l'idée que les choses pouvaient bien se passer.
Eh bien, merci donc de ce témoignage. Je rappelle que vous allez en rendre compte lundi 12 juin de 18h30 à 21h à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, invité par le Centre Documentation Tiers Monde qui a participé à votre préparation
au
départ.
Tout à fait. On remercie Maddy qui a beaucoup travaillé sur la préparation des jeunes.
Voilà. Et qui ne demande qu'à continuer justement s'il y a d'autres missions envisagées. Alors, je remercie aussi Marie-Agnès Sablerol parce qu'il est important de savoir que justement, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis déjà.
Oui, bien sûr.
Et que le projet va continuer.
On l'espère.
Alors, je termine rapidement maintenant avec le calendrier. Vous êtes invité le dimanche 11 juin de 14h à 17h à Casillac, au domaine départemental du Fesquet. Tout le monde à l'eau. C'est un atelier nature autour de l'eau, une ressource à partager et à préserver. C'est gratuit, sans inscription, et c'est animé par Eau pour la vie. Eau pour la vie, qui est une des associations
avec lesquelles on travaille, puisque
la maison des tiers-monde.
Voilà, et ils ont aussi envoyé des jeunes en mission de service civique.
Voilà, alors le mardi 13 juin, toujours à l'espace Martin Luther King, de 13h30 à 16h, c'est l'exposition des travaux réalisés par les élèves qui ont participé à la campagne alimentaire. Pêche qui peut. C'est la remise des diplômes, le goûter offert aux élèves, et c'est organisé par le Centre Documentation Tiers Monde et le collectif alimentaire. C'est une action qui est menée déjà depuis plusieurs années et qui permet pour les élèves qui vont dans les restaurants scolaires de travailler avec leurs animateurs sur un thème. Et ils choisissent bien sûr de faire cela ou d'autres animations. Mais cette animation sur Pêche qui peut a très bien marché. Il y a eu de très belles réalisations. Donc vous pouvez passer les voir. Et puis, vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, dans les locaux associatifs Simone de Beauvoir, 39 rue François d'Orbé à Montpellier, à Risselneuve, c'est une formation pour les jeunes en service civique, justement. Préparer son départ en séjour solidaire à l'international, c'est organisé par Artisans de Nouveau Développement, et il faut s'y inscrire avant le 16 juin. Et les frais sont de 100 euros. Et vous pouvez vous adresser au 09 50 23 41 38. Alors, j'ai autre chose à vous annoncer aussi. Vendredi 9 juin, de 19h à 19h30, à Narbonne, devant l'hôtel de ville, pour dire non au projet TOR d'Areva Malvesi, il y aura une formation de fresques en forme de papillon. C'est organisé par le réseau Sortir du nucléaire. C'est pour protester contre le nouveau procédé de traitement des nitrates de l'usine, justement Areva Malvesi, qui est prête à vaporiser près de 400 000 mètres cubes d'effluents nitratés radioactifs qui sont stockés dans des bassins. Et c'est une véritable catastrophe sanitaire, écologique et économique, à 2 km du centre-ville de Narbonne. Et puis j'annonce également, parce qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance pour les programmes d'été, que du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet, à Namur en Belgique, aura lieu la 5e université d'été du CADTM Europe. Choisir, c'est désobéir, les dettes illégitimes et l'injustice, abat, en présence de l'ex-présidente du Parlement grec, Zoé Constantopoulou, et du lanceur d'alerte Antoine Deltour, poursuivi par la justice luxembourgeoise. Et vous pouvez trouver tous les renseignements sur le site du CADTM, www.cadtm.org. Également, vous pouvez déjà vous inscrire pour l'Université Jean Jaurès, Université d'été européenne des mouvements sociaux, sur le thème « Débattons, résistons, agissons, c'est le moment ». Cela se passera à Toulouse du mercredi 23 au dimanche 27 août et c'est organisé par ATTAC. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site d'ATTAC. Merci à Marie-Agnès Sablérol, merci donc à Célia et à Lula.
Luna.
À bientôt, chers auditeurs.
Au revoir. Luna. Au revoir.
L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.